Bien, donc c'est une réaction d'économiste, elle sera complètement décousue. Dieu merci, nos trois collègues vont préparer ensuite présenter ensuite une synthèse cohérente. Donc je profite de cette liberté. Ce sera une réaction d'économiste, donc vous voyez déjà mes œillères virtuelles qui se mettent en place. Et au fil de ces trois journées, j'ai noté cinq points qui n'ont aucun lien évident entre eux, sur lesquels je souhaitais réagir. D'abord, premier point, sur la place de l'économiste et de l'économie dans ces trois journées. Ensuite, sur une question absente, la fin du travail. Et, troisième interrogation, le travail, de quoi parle-t-on ? Je devrais avoir la réponse, mais je poserai quand même la question. Quatrième réflexion sur ce que j'appellerais, je m'en expliquerai, la notion de catégorie écran. Et enfin, cinquième réflexion à propos de la notion de métier qui a été très largement promue au cours de cette opération marketing. Et je souhaiterais mieux maîtriser le contenu. Alors, première réflexion, la place de l'économie et de l'économiste dans ces trois journées. Comme beaucoup, j'aurais dû commencer mon intervention en remerciant les organisateurs de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Mais c'est un remerciement mêlé de perplexité parce que, en fait, des économistes ne sont apparus qu'au cours de la 9e session. Et ils ont fait une brève apparition, on en a pu reparler. Et puis quand même pour la clôture, on en exhibe un, et encore, est-ce vraiment un économiste ? J'ai été frappé par le contraste entre, au fond, cette très faible présence des économistes et une espèce d'omniprésence de l'économie comme contrainte. C'est-à-dire que mon impression, n'est-ce pas, avec les intervenants qui appartenaient à des disciplines multiples, et c'était évidemment l'intérêt de ces journées, acceptaient plus ou moins explicitement, plus ou moins consciemment, n'est-ce pas, l'économie comme une sorte de donnée exogène imposant une logique et des critères à partir desquels commençait leur travail. Alors, lorsqu'il s'agit des entreprises, la démonstration est évidente, on voit bien que ce sont des critères de rentabilité du capital, de performance boursière, qui sont à l'origine de toutes les pressions qui se traduisent aussi bien par l'intensification du travail et du contrôle que par l'appel à l'autonomie ou à l'engagement, dont nous avons appris que c'était la traduction moderne de la subordination. Et j'étais plus frappé parce que la démonstration était forte, n'est-ce pas, par l'exposé de Pierre Ferreri qui montrait comment, dans le travail du service public, dans le travail des administrations, réformes comme celle de la LOLF, donc la nouvelle présentation des lois de finances, ou de la révision générale des politiques publiques, n'est-ce pas, engendraient une prégnance d'objectifs d'efficience, de performance. Nous avons entendu les juristes nous expliquer que les réformes du droit du travail étaient fondamentalement commandées par la volonté d'avoir un droit du travail « employment friendly », comme on dit dans le jargon international, c'est-à-dire favorable à l'emploi. Donc, tout ce qui est derrière en matière de flexicurité, j'ai failli confondre les deux termes, mais le second est politiquement correct, donc flexicurité. Et François Godu ou Pierre-Yves Erquin, n'est-ce pas, nous ont bien montré cette prégnance des contraintes économiques. Alors, j'ai une petite inquiétude, n'est-ce pas, de voir les non-économistes, n'est-ce pas, sembler un peu restaurer, n'est-ce pas, l'économie déterminante en dernière instance, dont les économistes avaient essayé un peu de se libérer. Et je crois qu'il est tout de même important de dire que les critères qui ont été exhibés, à juste titre d'ailleurs, ça correspond bien à la réalité, hein, qui sont les critères de rentabilité, de performance, de productivité horaire du travail, etc., ne sont pas des critères absolus produits par l'analyse économique, mais sont le reflet de certaines formes d'organisation de l'activité économique, n'est-ce pas, et donc des critères qui sont cohérents avec ces formes d'organisation de l'activité économique. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire un dessin, surtout dans la conjoncture actuelle. On peut considérer que ces critères n'ont pas fait vraiment de façon décisive la preuve de leur efficience. Et il me semblerait important de réinjecter dans ce débat interdisciplinaire, qui est tout à fait utile, plus de liberté, si vous voulez, dans la réflexion économique. Hein. Pas considérer que l'économie pèse et impose, mais qu'il est, comme les autres sciences humaines et sociales, un domaine où on examine les conditions dans lesquelles des sociétés font des choix. Avec les critères qui s'affichent en matière économique sont, parmi d'autres, les expressions des choix sociaux. Deuxième observation, une question absente, la fin du travail. Oui, alors là, vraiment, on sent, n'est-ce pas, les effets de génération. Mais enfin, c'est pas si ancien que ça, n'est-ce pas? En 1995, Jeremy Rifkin publie « The End of Work », la fin du travail. Et la même année, Dominique Méda publie « Le travail, une valeur en voie de disparition ». Et ces deux ouvrages déclenchent un débat tout à fait passionnant, dans lequel interviennent des scientifiques tout à fait éminents, Dominique Schnapper, Gortz et bien d'autres. Les deux thèses sont tout à fait différentes. Pour Rifkin, c'est l'idée que les nouvelles technologies, les nouvelles formes d'organisation éliminent tendanciellement le travail dans un système productif automatisé, et donc les activités humaines doivent se replier sur des activités bénévoles financées par la collectivité. Une réduction de la durée du travail massive est indispensable. Donc, c'est la fin du travail, je dirais, au sens statistique du terme. La quantité de travail se résorbe. Pour Dominique Méda, c'est une critique de la place hégémonique qui serait accordée au travail dans nos sociétés, et donc la revendication d'une importance au moins aussi grande accordée à d'autres activités humaines, activités amicales, amoureuses, politiques, etc. Bien. Et on voit bien à l'arrière-plan, n'est-ce pas, les thèses de Hannah Arendt, qui sont plus anciennes, mais l'ouvrage sur la condition de l'homme moderne, n'est-ce pas, distinguait le travail, l'œuvre et l'action, et faisait du travail une activité essentiellement soumise à la nécessité, guidée par les perspectives de reproduction, et cherchait dans l'œuvre et l'action, n'est-ce pas, les lieux de développement de la personne. Alors, il n'en a pas été question. Première explication, les organisateurs qui connaissent leur métier ont soigneusement choisi les intervenants pour éviter toute déviation dans ce domaine, mais même dans les débats, n'est-ce pas, personne n'a soulevé cette question, ne serait-ce que pour la réfuter. Donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir qu'un débat qui a vraiment occupé le devant de la scène, non seulement au niveau idéologique et médiatique, mais dans la communauté scientifique, dix ans après, est disparu, n'est-ce pas, et que si on parle du travail, c'est pas du tout pendant ces trois journées pour disserter sur sa disparition ou sa disqualification. Et je pense que c'est même utile de prendre un recul par rapport à ces mouvements plus ou moins pendulaires, n'est-ce pas, de la réflexion scientifique. Un des aspects de ce débat, et ça me fournit une transition toute naturelle avec le point suivant, c'est, je pense, la grande incertitude quant à la définition des termes qu'on emploie. Pour Rifkin, le travail, c'était manifestement le travail dans les grandes organisations productives, Pour Dominique Méda, le travail, c'était seulement le travail qui avait une contrepartie monétaire. Nous avons bien vu dans nos débats que la réponse n'était pas si évidente que cela. Et chez Hannah Arendt, alors les risques de confusion sont pires encore, puisque dans son œuvre, n'est-ce pas, elle distingue labor, work et action. Alors, la traduction de action ne pose pas de problème, mais à partir du moment où, pour labor, on a choisi travail, pour work, il fallait autre chose. Et le traducteur a choisi œuvre. Mais work peut se traduire tout autant, tout aussi bien que labor par travail. Worker, c'est un travailleur. Bon. Et je pense qu'il y a eu quand même une très grande confusion dans le débat français, n'est-ce pas, du fait de ces choix de traduction. Et labor, c'est vraiment le travail au sens quasi bestial du terme, n'est-ce pas ? C'est le travailleur de Taylor, dans la conception de Hannah Arendt. L'œuvre, c'est l'artisan d'autrefois, mais c'est peut-être aujourd'hui l'homme de métier. Donc, c'est mon troisième point, il y a quand même un grand effort à faire, me semble-t-il, pour expliciter la signification des termes que l'on utilise. Et s'agissant du travail, c'est revenu à de nombreuses reprises dans les sessions successives. Nombreux intervenants ont tenu à préciser, dès le départ ou en cours de route, qu'est-ce qu'ils entendaient par travail. Bon, la position que je vous proposerais, c'est d'adopter au départ une définition large du travail, quitte ensuite à en restreindre ou en différencier les modes d'usage. Je pense qu'il convient d'appeler travail toute activité humaine qui est finalisée par la production de valeurs d'usage, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et que c'est dans le cadre de cette définition large qu'il est possible de construire des typologies. Alors, je n'ai matériellement pas eu le temps de faire un PowerPoint, mais pour ceux qui étaient là hier, il n'y a pas de problème si je fais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, dans votre cortex supérieur gauche et l'hélicoïdal, vous voyez s'inscrire un tableau à double entrée, n'est-ce pas, vos neurones clignotent, et nous allons remplir, si vous voulez, très rapidement ce tableau, avec deux rangées qui sont construites sur la base du statut social du produit du travail. Est-ce une production marchande, est-ce une production non marchande ? Et avec trois colonnes qui sont définies sur le statut du travailleur. Alors, premièrement, celui qui nous vient spontanément à l'esprit, le travail salarié, mais il peut être dans le secteur marchand et se situe dans les entreprises, il peut être dans le secteur non marchand, et ça peut être soit le travail dans les administrations au sens large que donnent les économistes, c'est-à-dire tout organisme qui fournit des services qui ne sont pas vendus à un prix de marché, ça peut être aussi au service des ménages. Il y a, nous en avons parlé, et Rosan Vallon a relancé le débat, n'est-ce pas, le travail autonome, qui peut s'exercer dans le secteur marchand, c'est le travail indépendant. Mais qui peut aussi s'exercer dans le secteur non marchand, où on trouvera le travail bénévole et le travail domestique au sens strict, le travail domestique au sein de la cellule familiale. Et puis il y a une troisième catégorie que je ne voudrais pas abandonner. Elle a été évoquée par l'historien le premier jour, elle a été réévoquée ce matin par Rosan Vallon, c'est le travail forcé. N'oublions pas quand même que, si nous prenons l'histoire du travail, jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'esclavage a été une institution considérable, et qui n'a d'ailleurs pas totalement disparu, et n'oublions pas que le XXe siècle s'est caractérisé par le formidable recours au travail forcé, aux camps de concentration, aux camps de rééducation. Et ce travail forcé pouvant tout aussi bien être affecté à la production de marchandises qu'à des productions non marchandes. Alors, je crois que c'est important de se donner cette définition large et cette typologie idéale typique, parce que tout ce qu'ont montré les interventions, c'est que les choses intéressantes se passent aux frontières. Soit que les frontières bougent, soit que les frontières deviennent indéterminées. Je prends un bref exemple, puisqu'il ne me reste plus que 5 minutes. Le CARE, par exemple, donc l'assistance aux personnes dépendantes à domicile, au départ, c'est du travail domestique. Et puis, on fait appel à des salariés des ménages, on fait appel aux bénévolats, on fait maintenant appel à des administrations ou à des entreprises qui s'implantent sur ce marché qu'elles jugent rentable. Donc, si on veut analyser le CARE, n'est-ce pas, il faut être capable de comprendre les relations de complémentarité, de contradiction, de substitution qui s'établissent entre ces différentes formes de travail. François Godu et Verquin, hein, nous ont parlé du travail travailleur indépendant, de l'auto-entrepreneur ou du pseudo-salariat camouflé en indépendance. Les Italiens nous parleraient de travail parasubordonné. C'est à la frontière du salariat et de l'indépendance comme statut juridique que se développent de nouvelles formes d'activité dont, évidemment, il importe que nous étudions avec soin la nature, l'auto-entrepreneur que la législation française promeut désormais, n'est-ce pas, est un, je ne pense pas que ce soit une réalisation des perspectives dressées par Rosan Vallon, mais c'est tout de même un enjeu que personne ne peut négliger, notamment quand on voit l'importance que cela a dans la gestion du chômage. Alors, il nous reste deux autres points sur lesquels je vais être beaucoup plus rapide. Je rassure les organisateurs. D'abord, ce que j'appelle maladroitement les catégories ou les notions écran. J'aime bien le terme d'écran parce qu'il a un double sens, n'est-ce pas ? L'écran, c'est ce qui empêche de voir, ça bouche la vue, mais l'écran, c'est en même temps ce sur quoi on projette une image qui, s'il n'y avait que le projecteur, serait imperceptible. Et je trouve qu'on a fréquemment rencontré au cours de ces trois journées des notions, des vocabulaires, n'est-ce pas, qui faisaient appel à ce mécanisme. Alors, d'abord, avec Abdallah Nouroudine, la notion de travail informel. J'ai fait partie, il y a plus de 30 ans, de ceux qui ont lutté sans succès pour que le BIT n'emploie pas le vocabulaire de travail informel, qui me paraît d'une invraisemblable impérialisme conceptuel, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'est le travail informel ? C'est le travail qui ne correspond pas aux formes du monde développé. Or, nous savons bien, et ça a été montré, n'est-ce pas, qu'au contraire, le travail dit informel obéit à des formes extrêmement complexes, qui relèvent de l'économie marchande, qui relèvent des relations de parenté, qui relèvent des solidarités de voisinage. Et en l'appelant informel, si vous voulez, hein, on empêche de voir ce qui est important, c'est-à-dire de chercher les formes spécifiques qui régulent ce type d'activité. Florence Weber nous a parlé du travail invisible. Mais si elle parle du travail invisible, c'est pour le rendre visible. Et je pense que On a eu une autre illustration avec les TMS, les troubles musculosquelettiques, n'est-ce pas ? On voit bien que tout le problème, c'est de savoir par quel mécanisme ils sont ou non rendus visibles. Et je ne suis pas sûr, Laurent Vogel, me semble-t-il, qui a cité l'exemple d'une multinationale française qui considère que le TMS est visible dans les pays où il y a une législation qui l'institue. D'ailleurs, il n'est pas visible. Bon, Catherine Omnes, alors là, je ne cite pas sa contribution, mais une œuvre antérieure à laquelle l'historien a fait allusion au début, n'est-ce pas, rend visible dans la région parisienne l'existence d'ouvrières qualifiées ayant des trajectoires au sein de marchés professionnels. Et ça, c'était complètement nié à la fois par les théories du dualisme et par les analyses de genre, n'est-ce pas, dans leurs versions les plus sommaires de part et d'autre, car le travail féminin ouvrier ne pouvait être que non qualifié, précaire, constituant une des composantes de l'armée de réserve industrielle. Donc, rendre visible le travail féminin qualifié sur des marchés professionnels, c'est une opération qui affiche et qui nous oblige à prendre en compte des phénomènes qu'ignorent la doxa académique dominante, même démonstration, mais là je suis trop peu compétent pour m'y avancer beaucoup, de Viviane Zelitzer à propos de l'intime hein, dans les rapports de travail. L'intime est évidemment nié par toutes les analyses scientifiques de l'organisation du travail, de la gestion personnelle, et pourtant les relations de parenté, d'amitié, les relations sexuelles sont constamment présentes mais masquées. Et les rendre visibles, c'est un travail tout à fait important. Michel Lallemand et d'autres ont encore évoqué ce matin aussi tout le problème des talents, des compétences cachées qu'il s'agissait de révéler avec les avantages et les risques. Donc il me semble que des spécialistes, n'est-ce pas, de champs tout à fait différents, convergent sur ce thème. Et je termine sur les métiers, parce que c'est vraiment une question. C'est visiblement une préoccupation centrale des organisateurs, puisque c'était dans l'intitulé du colloque. C'était très fort dans l'ouverture de la réflexion, notamment les contributions d'Yves Clos et de Gilbert de Tersac. Et puis ensuite, nous avons eu une espèce d'évocation périodique et hâtive du terme de métier, telle sorte que j'étais tout à fait perplexe sur le contenu qu'il fallait accorder à ce terme, n'est-ce pas ? Quand William Sewell nous parle des gens de métier, il me semble que ce n'est pas du tout pareil que lorsque une multinationale se recentre sur son métier. La polysémie de métier est étonnante, et on en a vu les performances au cours de ces trois jours. J'allais dire que je me préparais à dire hier soir, mais Michel Lallemand m'a coupé mon effet, je lui revaudrai cela, que tout le problème des mises en relation, n'est-ce pas, avec les notions de profession et de professionnalité, de qualification et de compétence, ont été très vaguement effleurés, hein, mais jusqu'à ce qu'il les pose carrément à peine traités. Et donc, au moins ce colloque, n'est-ce pas, nous aura désigné un chantier qui reste, à mes yeux, très largement au niveau des toutes premières fondations. Qu'est-ce que le métier ? Est-ce que c'est un mot valise, n'est-ce pas, qui permet à tout le monde de faire semblant de se retrouver ? Ou est-ce que peut s'amorcer un travail de production, d'un concept du métier dans la période actuelle, dans les formes actuelles du travail ? Cela me paraît tout à fait passionnant, mais largement problématique, n'est-ce pas ? Le métier, c'est une qualité du travail, des qualités du travail. Le métier, c'est une identité professionnelle, c'est se reconnaître. Le métier, c'est un statut social, c'est être reconnu par les autres. On a bien vu tous ces éclairages successifs, mais plus sous une forme kaléidoscopique que sous la forme des axes, n'est-ce pas, d'un programme de recherche à définir. Donc, je mettrai volontiers ce thème comme une des priorités de recherche qui se dégage de ce colloque, en ajoutant d'ailleurs qu'on voit bien à quel point non seulement elle peut être un champ commun à différentes disciplines, mais qu'elle peut être un champ de confrontation entre guillemets chercheurs et acteurs, hein, toutes les ambiguïtés de ces termes, car la question est tout aussi importante, hein, pour les managers ou pour les syndicalistes qu'elle peut l'être pour les chercheurs. Je crois que le métier, n'est-ce pas, est-il un élément d'un nouveau paradigme du travail ou est-il encore une nouvelle valise à la mode qui disparaîtra avec le temps? Je penche évidemment pour la première option, mais la preuve reste complètement à faire et je pense que nous pourrions nous donner cet objectif. Merci.